Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, avec du son et beaucoup de monde autour de nous, puisque nous sommes enfin enfuis des studios à Paris pour suivre la manif de la fête à Macron.
On est en direct de la manif Pot-au-feu dans le carré des luttes avec les cheminots, les soignants, les infirmiers, le personnel hospitalier, des enseignants, des chômeurs, des retraités, des étudiants qui viennent d'un peu partout en France et en route vers la Bastille. Une émission réalisée par Jérôme Chélus, assistée de Lucille Valéry avec Antoine Teboul à la technique aujourd'hui.
Cette semaine, on va passer une heure avec les premiers de cordée. Eux ne portent pas des costards, ils n'ont pas les yeux rivés sur les courbes de la bourse. Ils portent des blouses blanches et des bleus de travail, des piolets et des crampons. Les uns arpentent les rues de Paris pour faire la fête à Macron, pendant que les autres arpentent la montagne pour venir en aide aux exilés. Mais tous luttent pour remettre de l'humanité dans un système qui a perdu le sens des réalités.
Quand on sera pris, on sera privé d'attention.
Écoute-moi, on n'a plus le temps maintenant de s'occuper des patients.
Alors nous, on vient de Montpellier, on est les salariés de Sanofi en lutte. Sanofi, industrie pharmaceutique.
Voilà, c'est la catastrophe sur tous les plans. Et sur le plan social, c'est la guerre aux pauvres, donc ça suffit, quoi.
Stop Macron !
Moi, je dis souvent, on vit une putain de belle aventure. Franchement, on pourra dire qu'on était là, quoi.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court depuis des mois déjà dans les EHPAD et les hôpitaux, à la Poste, à la SNCF, dans les facs occupées, les tribunaux surchargés, les entreprises rationalisées. Et si tous les ingrédients de cette colère sociale étaient balancés ensemble dans une grande marmite, qu'est-ce que ça donnerait ? Une sorte d'objet politique non identifié, une manif pot-au-feu agrémentée de la convergence des luttes contre le président Macron et son monde. La marmite bout sous le feu de la colère et il en faudrait peu pour que la casserole déborde et que la peur change de camp. Déjà, le gouvernement voit dans la fête à Macron un appel à la violence à peine masqué.
Quand vous dites « faisons la fête à Macron », ça peut être très joyeux, très festif, ça peut être très irrévérencieux. J'ai aucun problème avec ça.
Faire la fête à Macron, certaines le prennent effectivement au pied de la lettre.
Dans le langage populaire, faire la fête à quelqu'un, ça peut avoir une double signification. Il y a un côté sympathique et festif, et puis il y a un côté plus violent, on va lui faire sa fête.
Vous craignez, Benjamin Griveaux, que la fête à Macron soit le lieu d'autres violences ?
Oui.
Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, ne cache pas son inquiétude. Alors Antoine, Give, comment ça se passe sur le terrain ? Est-ce que vous pouvez le rassurer ?
Moi, j'ai peur que les membres de la majorité soient un peu déçus, eux qui criaient toute la semaine au risque de débordement. Et bien là, on est... passer la République, on est en train de marcher vers la Bastille, heureusement il fait beau, et l'ambiance est très bon enfant, chaleureuse, des familles. C'est pas les militants habituels qu'on voit toujours avec les banderoles, puisque je le rappelle, la CGT vient à titre individuel, mais pas en tant que groupe. Et on est à côté de François Ruffin, un des grands organisateurs de cette manifestation. François, on va pas faire semblant de pas se connaître, puisque des anciens collègues de France Inter, sur la Bastille j'y suis.
Pendant 7 ans, ouais. Et c'était des excellentes années. Moi, c'est mes meilleures années de reporter, hein, là-bas, si j'y suis. Quoi. Maintenant, c'est pas nous qui avons choisi de mettre fin à l'émission.
Voilà, la petite parenthèse. En tout cas, en attendant, là, le pari semble plutôt réussi, puisque l'idée, si j'ai bien compris, c'était de trouver une autre manière de manifester que simplement protester et la colère. Essayer de faire quelque chose de joyeux.
Ouais, ben, disons que le joyeux, c'était la sauce qu'on met par-dessus pour faire attirer les gens. On n'attire pas... On attire les abeilles avec du miel, non c'est quoi ? Putain, je me souviens plus de la phrase.
Pas avec du vinaigre.
Ah, on attire pas les abeilles avec du vinaigre, c'est ça, exact. Ben donc voilà, c'est ça. Je veux dire, les gens, moi je pense que au-delà des luttes des cheminots, des luttes des étudiants et tout ça, on a quelque chose de manière souterraine, qui est beaucoup plus massif, qui est beaucoup plus explosif, c'est le désir des gens d'autre chose, d'une autre société où ça soit pas la concurrence, tu vois, dans le texte de loi du nouveau pacte ferroviaire là que j'ai lu sur la SNCF, il y a 86 fois le mot concurrence, il n'y a pas une seule fois le mot climat, pas une seule fois le mot réchauffement, pas une seule fois le mot biodiversité. Et je pense que il y a plein de gens qui ont envie d'une société avec des valeurs plus humaines que la concurrence, la guerre de tous contre tous, même pour rentrer à l'université, ça y est, il faut démarrer la guerre de tous contre tous. Toi, tu auras une place, toi, tu n'en auras pas une. Et je pense que ça, de manière souterraine, les gens, il y a des centaines de milliers, des millions de personnes dans ce pays qui ne veulent pas ça, qui savent que la politique de Macron, elle est injuste. C'est vraiment un Robin des Bois à l'envers. Je prends aux pauvres pour donner aux riches, sur la CSG, sur les APL, sur les emplois aidés, et je te supprime l'impôt sur la fortune pour les actionnaires à l'automne. Ça, c'est 3,5 milliards d'euros. Et là, cette semaine, je te supprime l'exit tax mis en place par quand même ce qui n'était pas le plus gauchiste des présidents, Nicolas Sarkozy. Et hop, je te
redonne. Pour éviter l'évasion fiscale.
Ouais, pour éviter que les riches partent en Belgique et tout ça avec leur plus-value. Et paf, je te redonne 1 milliard d'euros. Quand on continue d'aller chercher de l'argent dans les poches des pauvres ou des gens normaux. Quoi.
Ou les caisses de l'hôpital public qui doivent verser près d'un milliard de moins.
Oui, mais même, tu vois, on a eu un rapport sur les EHPAD. Les EHPAD, donc les maisons de retraite. Et dans le rapport, en page 8, il y a un paragraphe qui est tout à fait éclairant, où on nous dit qu'il y a de la maltraitance dans les EHPAD à cause du sous-effectif. C'est marqué noir sur blanc. Et c'est un rapport qui est conjoint de Caroline Fiat, députée France Insoumise, et de Monique Iborra, députée de La République En Marche. Et la réponse de la ministre de la Santé, Madame Buzyn, c'est « La France n'a pas les moyens budgétaires pour pallier ce sous-effectif. La France a les moyens budgétaires de supprimer l'impôt sur la fortune, la France a les moyens budgétaires de supprimer l'exit tax, mais la France n'a pas les moyens budgétaires d'embaucher pour que les gens, jusqu'au terme de leur vie, soient traités humainement et dignement. » Donc voilà, on sait contre quoi on manifeste aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est pas de donner aux gens ce sentiment d'injustice, ils l'ont, mais c'est de leur faire sortir le sentiment d'impuissance, le sentiment de la résignation, de ce poison qui entre dans les cœurs de « on n'y peut rien, c'est comme ça, il n'y a rien à faire ». Et le message qui est adressé aujourd'hui, c'est un début de « non, on peut quelque chose, on peut faire quelque chose ensemble ». Je dis c'est un début parce que pour moi, c'est une étape.
C'est ça. Pour moi, ça commence ce soir, en fait.
Voilà, pour moi, c'est une étape. Moi, je suis déjà dans le 26 mai. Alors, il y a des jours entre aujourd'hui et le 26 mai.
Le 26 mai, c'est la grande manifestation qui est lancée, cette fois-ci avec des partis politiques et des associations, et ceux de la manifestation d'aujourd'hui.
Et des syndicats. Donc voilà, là, on a ce moment historique où on peut casser les cloisons. Vous savez, moi, on me dit, non, faut pas, c'est les politiques et les syndicats et le citoyen, c'est pas pareil. Mais moi, quand je vais à une manifestation, c'est pas un bout de François Ruffin qui va à une manifestation. C'est pas, bah tiens, aujourd'hui j'en prends 20% et puis c'est les 20% qui est encarté à la CGT depuis que je suis entré à France Inter en 2005. C'est pas ça. Ou bien c'est pas, ah tiens, c'est pas les 5% de députés depuis un an ou les 80% de citoyens qui fait fakir depuis 99, tu vois. On fonctionne pas par tranche. Donc évidemment qu'il faut rassembler tout ça pour qu'il y aille dans tous ensemble. Quand en face il y a la force de l'argent, nous il nous faut la force des gens. Il faut rassembler. Et puisque t'as commencé par Colomb tout à l'heure, moi je veux quand même dire merci. Je veux adresser un grand merci. Un grand merci à Gérald Darmanin, un grand merci à Gérard Collomb, un grand merci à Édouard Philippe, un grand merci à Emmanuel Macron qui, y compris depuis l'autre côté de la planète, depuis l'Australie, a continué de penser à nous et à faire notre promotion. Et je dois dire que, avec les petits moyens que nous avons, vous savez, cette manifestation-là, je veux dire comment elle a été financée. Elle a été financée par un truc qui s'appelle Pocommun.fr, qui est sur Internet, peut-être qu'on n'a pas le droit de faire le pub, mais... c'est pour les cadeaux d'anniversaire normalement. Et comme c'est la fête d'anniversaire d'Emmanuel Macron, on l'a fait sur pot commun. Et on a réuni, je crois, 25 000, 30 000 euros qui permettent de payer les chars, de payer la sono, de payer la protection civile et tout ça. C'est comme ça qu'elle est financée, cette manifestation. C'est quand même incroyable qu'à peu près 1 millier de personnes qui ont mis de l'argent pour qu'on ait les moyens de manifester festivement aujourd'hui.
Et faire cette espèce de pot-au-feu avec où chacun amène son ingrédient.
J'imagine bien qu'on n'aurait pas eu de budget de communication, de budget publicitaire pour promouvoir cette manif. Heureusement, on avait Colomb. Heureusement, on avait Darmanin. Heureusement, on avait Emmanuel Macron. Mais sans le gouvernement d'Édouard Philippe, on serait pas aussi nombreux. Merci à eux.
Et des mois de mobilisation aussi. On est dans la continuité quand même de tout un mouvement. Les facs qui ont repris les blocages en ce moment, l'école normale supérieure notamment. Donc on parle d'essoufflement, mais pas du tout. Et là, c'est comme un nouvel appel. Hein.
Oui, je pense que c'est un appel d'air qui est... Si tu veux, moi, la convergence des luttes... Il y a ça sur la banderole de tête, parce que tu sais, moi je suis pas un mec qui contrôle les choses. Je lance quelque chose, et puis après, du moment que la direction générale me convient, je cherchais pas à dire corrigez-moi ça, passez-moi du Tipex et tout ça sur tel endroit. Bon, il y a marqué convergence des luttes sur la banderole, mais moi j'y crois pas à la convergence des luttes. Ce que je veux dire, c'est, tu sais, il y a une novlangue libérale, mais il peut y avoir une novlangue militante aussi, et qui fait que ça rend le truc un peu chiant, et que les gens en face, ils y croient pas. Moi, je crois pas que les gens... La convergence des luttes, c'est un truc qui les fait triper. Pourquoi ?
Alors, sur quoi on se retrouve, alors ? Alors,
pourquoi ? Je vais te dire, parce que des luttes, au fond, dans le pays, il faut se dire, aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Faut pas se la raconter. Ça repose sur une tête d'épingle. Les cheminots...
Les étudiants, les infirmiers, le personnel soignant.
Mais à l'intérieur des cheminots, ils ne sont pas en grève continuelle, tout le monde là. À l'intérieur des cheminots, c'est les roulants qui font le boulot pour l'essentiel. Donc on voit très bien que le mouvement repose en termes de lutte et de grève sur une base qui n'est pas énorme. Mais je pense qu'il faut. Il y a une avocate qui est venue à nos réunions de préparation de la fête à Macron du syndicat des avocats de France et qui a parlé de convergence des causes. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant. Qu'il y a aujourd'hui des tas de causes qui ne sont pas en lutte et qui ne seront pas en lutte, vraisemblablement. Par exemple, tu prends, il paraît que c'est aujourd'hui que la France a bouffé tout son capital écologique, tu vois, en 5 mois. L'environnement est quelque chose d'absolument central, mais il n'y a pas de lutte autour de l'environnement. Et pourtant, il y a une sensibilité, massive. Et pourtant, il y a une sensibilité massive dans le pays en faveur de ça. Donc, il s'agit de trouver des événements, des choses qui permettent de rendre visible tout ce désir souterrain d'autres choses.
C'est ce qui est en train de se passer. Merci François. On est sur la marche Poteau-Feu, donc la manif Poteau-Feu, qui a démarré à Opéra à 14h et qui continue jusqu'à Bastille.
Faites à Macron ! Vous en voulez encore du Macron ?
Je suis pas venu avec ma tenue de combat, ni casqué, ni quoi que ce soit. J'ai plutôt envie de faire des poutous, comme on dit chez nous, c'est-à-dire des grosses mises.
La fête à demain !
T'as pas entendu comme un bruit ?
Macron !
Quand vous dites « faisons la fête à Macron », ça peut être très joyeux, très festif.
Un bruit du fou !
Alors nous sommes dans la marche, un contexte social fort aujourd'hui. On est dans la marche, il y a beaucoup de monde, ça se passe très bien, bon enfant. Et c'est vraiment la solidarité de tous ces causes en lutte, hein, comme disait François il y a quelques instants. Les causes qui sont là, donc les luttes qui convergent, mais les causes aussi, et la convergence vers la solidarité. Et là, on va se retourner vers la montagne, hein, où les premiers de cordée ne portent pas forcément des costards-cravates, Charlotte.
Oui, on retourne dans les Hautes-Alpes, à la rencontre des montagnards solidaires des migrants. Car depuis 2015 et la fermeture de la frontière franco-italienne à Vintimille, la route de l'exil pour les migrants francophones venus d'Afrique de l'Ouest passe par les différents cols des Hautes-Alpes. Tous les jours, entre 20 et 50 personnes traversent la montagne à pied au péril de leur vie. Et à Névache, au pied du col de l'Échelle, comme à Clavière, près du col du Mont-Genèvre, simples citoyens et militants solidaires s'organisent pour venir en aide à ces naufragés de la frontière, au risque de se retrouver devant les tribunaux, accusés du fameux délit de solidarité, comme le sont déjà près de 50 personnes à Briançon et bien d'autres partout en France. Alors si la solidarité est un délit et que les valeurs humaines sont criminalisées, peut-être qu'il est grand temps de se réveiller. Jusque 17h sur France Inter, comme un bruit qui court avec les premiers de cordée solidaires et en direct de la manif Poteau-Feu du 5 mai, une heure pour redonner du sens à notre humanité.
L'immigration serait aujourd'hui un sujet d'interrogation majeur pour les Français.
Il y a un devoir d'humanité, mais il y a aussi le devoir de respecter la loi de la République.
Votre texte est celui de l'expulsion, de la répression.
Toutes les personnes qui n'ont pas vocation à rester en France doivent être reconduites à la frontière.
De toute façon, ils passeront.
On accueille trop d'immigrés par rapport aux capacités d'intégration de notre pays.
Mais qui peut encore penser cela aujourd'hui et comment peut-on le penser ?
Si vous voulez, vous vous installez au col de l'Échelle puis vous faites du tir à vue. Hein. Bah oui.
Jeunes d'Afrique, soyez les bienvenus.
Dans le monde où nous vivons, on peut défendre des belles idées, mais on ne peut pas les défendre en faisant abstraction de la brutalité du contexte de très forte pression migratoire. Nous devons aussi le garder en tête pour ce qui nous concerne.
Nous sommes, mes chers collègues, face à une crise de l'accueil.
T'as pas entendu comme un bruit ?
Oh, un bruit qui court !
Comment ? T'as pas entendu comme un bruit ?
Qui vont-ils ?
Charlotte Perry.
Comment ?
Antoine Chao.
Hashtag comme un bruit.
On est à Névache. Un petit village de 300 habitants, perché à 1700 mètres d'altitude, au pied du col de l'Échelle. C'est le premier village français de l'autre côté de la frontière d'Italie, en arrivant de Bardonnèche. Et c'est un col par lequel sont passés de très nombreux migrants, jusqu'à ce qu'il soit fermé cet hiver, à cause des conditions météo. Il a énormément neigé, il continue de neiger d'ailleurs. Le paysage est tout blanc, on est entouré par la montagne. Et à Névache, comme à Briançon, la solidarité s'organise pour recueillir ces naufragés de la frontière. Et elle s'organise notamment autour de Bernard Ligier,
qui a 84 ans, qui est ancien militaire et ancien commandant des chasseurs alpins. On arrive là, juste devant sa maison. Porte est ouverte. Oui. Bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Asseyez-vous.
Bonjour, monsieur. Merci. Oh, volontiers, oui.
C'est pas vu.
Je peux vous demander de vous présenter.
Bernard Ligère, retraité à une vache, ayant servi à deux reprises dans les troupes de montagne. Ce qui fait qu'on parle de choses communes.
Et vous, vous êtes ?
Alors, moi, je m'appelle Jean-Gabriel Ravary. Moi, je suis habitant à Névage depuis 42 ans. Et j'exerce la profession de guide de haute montagne. Et puis, moi, je suis engagé par rapport au problème des migrants. Voilà. Faut pas que tu me vous vois. Parce que autrement, je te répondrai pas. Voilà. Ça marche.
Si vous voulez des petits croquants de Névage, ils sont très bons.
Ah, merci.
Le café, ça va très bien.
Les gens d'ici.
Et nous accueillons Jean-Louis Chevalier, maire de Névache, cette belle commune, peut-être l'une des plus belles des Alpes, au fond de la vallée de la Clairée, au pied du massif des Serres, dans l'Aubry-en-Saunay. Tout le monde connaît, en tout cas, on l'espère. En sachant qu'il faut y aller pistes de ski de fond, hein, on vous les conseille tout l'hiver, puis les pistes de ski alpin également.
Oui.
C'est une petite station, Névache.
Oui, c'était une particularité de notre commune, c'est une station village.
C'est-à-dire que nous, notre problème, c'est bien sûr le col de l'échelle, mais c'est aussi cinq autres cols qui sont fréquentés l'été. Donc, ça élargit un peu le panorama. Ça explique aussi qu'on est une commune presque piémontaise.
On est à combien de kilomètres, là, de l'Italie ?
Ici, quand on prend la route, on est à 25 minutes sur la Bardonnache. Quand ils ont fermé la Ventimiglia, eh ben, on a eu un reflux vers les Alpes du Nord, ce qui amène, d'ailleurs, les communes italiennes et les communes françaises à s'organiser entre elles en attendant qu'on nous envoie du ciel une solution qui apparemment n'existe pas.
Donc, nous, au niveau du village, par la force des choses, content ou pas content, il a fallu qu'on s'organise parce qu'on était devant des migrants qui frappaient à notre porte, que ce soit ici, chez moi, chez d'autres et tout. Et puis, on les a fait rentrer à la maison, comme on ferait rentrer n'importe qui. Et puis après, ça s'est enchaîné. Il a fallu qu'on s'organise un peu pour loger les gens, enfin les migrants, pour les nourrir. Et voilà. J'utilise le terme de sentinelle. Bon, tout le monde est sentinelle chez soi, on ne bouge pas. Puis après, on est organisé, sans être très organisé. On sait qui fait quoi, on sait où on peut aller, on sait voilà quoi.
On a beaucoup abordé déjà avec vous le sujet des migrants, avec ce statut particulier du col de l'échelle, qui est un point de passage. Gérard Fromm, le maire de Briançon, parlait de passoire, en disant que même malgré l'intervention des forces de l'ordre, eh bien voilà, le passage y était finalement assez facile. Mais comme les migrants craignent la présence de forces de gendarmerie ou de la PAF, ils ont tendance à passer par la montagne. Ça a de quoi inquiéter.
Oui, ça va poser de très gros problèmes.
Les gens d'ici.
Et alors ici, donc ça me... Petit village de 300 habitants, hein, c'est ça, Névache.
340.
La solidarité, elle ne s'organise pas tout à fait comme à Briançon, où il y a eu un lieu d'ouvert spécifique pour accueillir les gens.
On est d'accord autour d'un objectif. On fait des secours de la frontière italienne à Briançon. Et on se borne à ça. C'est notre raison d'être. Si on déroge... qu'on commence à entrer dans le politique et autres, en 15 jours, il n'y a plus rien à Névache.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que la solidarité est telle que, parmi les gens qui nous aident autres, il y a toutes les couleurs politiques.
Mais les gens du Front National, par exemple, j'imagine qu'ils ne partagent pas complètement votre démarche.
Bien sûr.
Oui, mais déjà, si tu veux, ils ne nous posent pas de problème. Et en fait, on ne cherche pas à se mettre en avant, à faire des banderoles, on ne cherche pas à dire on accueillit, parce que justement, on ne veut pas réveiller des vieilles jalousies ou des choses comme ça. Mais non, non, nous, ça fonctionne super bien, mais on ne fait pas étalage. Parce qu'on s'installe dans le long terme. On ne sait pas combien de temps ça va durer.
Quand on dit aux gens, regardez les types qui arrivent, crevés, fatigués, blessés, on ne peut pas laisser comme ça, tout le monde est d'accord.
Moi, je crois que le réflexe qu'on a tous, c'est un réflexe de montagnard. On sait que c'est difficile de marcher dans la neige, on sait qu'ils sont mal équipés, qu'ils vont se geler les pieds, on sait qu'ils peuvent être sujets aux avalanches, aux chutes de pierres, enfin ils ont tout pour pas plaire. Hein. Donc nous, si on traversait le col de l'Échelle, mais sans parler des migrants, qu'on rencontrait un couple en difficulté en raquette, on s'en occupe, on tient, qu'est-ce que tu veux ? C'est un réflexe de montagnard avant tout, on peut pas laisser les gens comme ça. Très souvent, quand ils arrivent, surtout l'hiver, ils ont les pieds gelés à plusieurs degrés, donc souvent c'est le réflexe. On commence par s'occuper de leurs pieds parce que souvent les chaussures sont gelées, donc ils les enlèvent et ils terminent pieds nus. Mais ils se rendent pas compte qu'au bout d'une heure, ils ont les pieds qui sont béton. Si on voit que c'est vraiment grave, on appelle secours en montagne. Et puis autrement, bah, on les met dans de l'eau tiède avec un antiseptique de façon à ce qu'il y ait un réchauffement progressif. Mais ça, au départ, c'est le réflexe de montagnard. Ça commence par là.
C'est la raison fondamentale. Un jour, on amène trois migrants à 6h du matin, 9h. On commence à les prendre en charge. Mais on m'a dit, faites attention, il y a une dénonciation.
De quelqu'un du village ?
Ah oui. On a mis de l'ordre dans la maison. On a envoyé les migrants ailleurs. Et la gendarmerie a envoyé deux véhicules. Un qui a passé la matinée à Chambellet. Et l'autre au bistrot en dessous.
Donc ils n'ont pas tout à fait le travail qu'on leur demandait de faire.
Je ne sais pas ce qu'on leur a demandé de faire, mais on devine. D'ailleurs, ils sont souvent très ennuyés.
Souvent, ils sont gênés, souvent ils ont des ordres qu'ils ont du mal à appliquer, souvent ils tournent la tête, sauf quand ce n'est pas des gens qui sont d'ici. Parce qu'en fait, il y a tellement de besoins en système répressif, aveuglément répressif, je dirais, qu'ils font venir des gars de la réserve. Alors ces gars-là ne sont pas du tout montagnards. Hein. Ils ont plus de regard, quoi. Ils cherchaient à faire la performance, le chiffre, quoi.
Parce que le problème, c'est que si vous accueillez tous les migrants économiques, on finira par tuer totalement le droit d'asile.
Gérard Collomb.
Et donc c'est parce que nous voulons préserver le droit d'asile qu'effectivement nous mettons un certain nombre de bornes et qu'on dit il y a un statut de réfugié et cela signifie quelque chose.
Bardonnet est là, Briançon est là. Donc là on a orienté la carte par rapport au terrain. Donc les migrants, si tu veux, arrivent à Bardonnèche, ici. Ils débarquent du train, et c'est la frontière. Donc la route du col de l'Échelle, elle est là. Donc actuellement, ils montent jusqu'ici aux Arnaux. Là, c'est enneigé. Après, quand ils attaquent le col de l'Échelle, ça, c'est une belle pente. Hein. On s'en rend pas compte, là, mais c'est quand même une très belle pente.
Ça valonne, là.
Là, c'est la route qui slalome dans la pente. De là à là, ça monte. Ici, c'est là où il y a deux tunnels là, qui sont difficiles à franchir. Et ils ne peuvent pas passer par l'extérieur. Ils sont obligés d'essayer de passer dessous. Actuellement, c'est plein de neige. Ils ont 50 mètres à traverser, qui sont ce qu'on appelle, nous, exposés. C'est-à-dire qu'ils peuvent glisser ou se faire ramasser par une petite coulée qui va les faire descendre. Une fois qu'ils sont sur le plateau, c'est assez long. Alors, on a un petit bâtiment qui est la cabane de berger au milieu du plateau. On a équipé avec des habits, des chaussures, enfin voilà quoi. Mais faut-il qu'il la voie, parce que un peu dans le mauvais temps, un peu la capuche rabattue, un peu fatigué et tout, voilà. Et il y a eu une belle histoire au premier de l'an ici, au premier de l'an 2018. Il y a un jeune guide, Yann, qui a organisé un réveillon à la cabane. Et ils étaient 70. Et là, comme il n'y avait pas assez de place pour s'héberger, ils ont fait sept igloos devant le chalet. Et là où c'est dramatique, c'est que c'est là où on voit qu'il n'y a pas toujours des montagnards qui sont amenés dans les forces de l'ordre. Les sept igloos, là, ont été détruits par trois gendarmes qui sont montés en raquette depuis Névache par souci de sécurité. Nous, on ne nous la fera pas, nous, les guides, c'était ciblé. C'était ciblé pour qu'il n'y ait pas de possibilité d'accueil pour les migrants. Ça, c'est inadmissible en termes de montagne, d'esprit de liberté, c'est inadmissible. Et je suis sûr que ce n'est pas des gars d'ici. Alors là, ça, c'est pas d'ici. Alors après, ils arrivent, ils surplombent des vaches, et ils voient des lumières, parce que c'est souvent le soir. Ils voient des lumières, et ils se dirigent tant bien que mal vers les lumières. Donc ils peuvent s'arrêter chez Ginette, là-bas au bout. Elle va les prendre en urgence, elle va les faire manger. Et après, on se débrouille, il y a du téléphone pour aller les chercher, les loger au moins pour la nuit. Et puis après, on les fait rejoindre Briançon. Mais actuellement, il ne faudrait surtout pas qu'ils cherchent à passer par le haut. Parce que là, ils y restent. Là, ils y restent. Et en ce moment, il y a quand même des grosses arrivées. Donc, on est inquiet. Le souci, c'est est-ce qu'on ne va pas trouver des morts ?
C'est une des raisons pour laquelle on se dit qu'est-ce qui va se passer.
À l'arrivée du printemps ?
Oui, c'est ça. Parce que là, il y a encore assez de neige pour qu'on ne voit pas grand-chose.
Voilà.
Vous êtes inquiet du moment de la fonte des neiges ?
Oui, tout à fait.
Bon, mais là, je parle quand même à deux personnes qui commettent des délits régulièrement, en transportant les migrants. C'est passible de 5 ans de prison, quand même.
Écoutez, chaque fois qu'on nous demande comment on réagira, on n'a qu'une réponse, on continuera. Je prends le risque. On les transporte, on n'a pas à choisir la couleur de leur peau pour dire si on s'en mêle, si on s'en mêle pas. Officiellement, on leur demande à rien. C'est pas notre boulot. En plus, ça se passe de nuit, très souvent. Donc, par principe, j'allais dire, on ne veut pas les connaître. Et d'ailleurs, ça marche bien parce que en décembre, janvier, on a fait un certain nombre de convois, disons. Jamais on n'a eu le moindre problème avec la police et la gendarmerie.
Mais vous, en tant qu'ancien militaire, ça vous pose pas un cas de conscience ?
On est devant un problème éternel. Antigone, c'est ça. L'éthique d'un côté, la loi de l'autre. Et le problème est sans fin. Ben, on est dans cette situation.
Vous avez fait le choix de l'éthique ?
Ah ben oui. Tout le groupe qui est ici l'a fait, clairement.
Je crois que ce qui étonne beaucoup les gens, les vaches, ça paraît un peu comme un truc particulier. Ça fait penser à Astérix et Obélix. Où on s'est organisé par rapport à cette humanité, quoi. De toute façon, des migrants qui vont taper à la porte de chez nous, des gens qu'on va voir en détresse sur la route, la loi Pierre-Paul-Jacques, nous, ça ne changera rien. On les embarque dans la voiture, on continue. Moi, je dis souvent, on vit une putain de belle aventure. Quoi. Franchement, on pourra dire qu'on était là. Quoi.
Monsieur.
Je veux dire au revoir.
Merci.
Merci. Je vous laisse.
Au revoir.
Bon, allez, à bientôt. T'imagines des migrants là, qui sont dans la tempête, ils frappent à la porte, même si tu es au Front National, tu leur ouvres.
Ah, il neige là encore.
Bah, là, c'est la tempête. Hein. Puis là-haut, c'est des trucs qui sont guenés, là, ils sont trempés. Bon, je te laisse, c'est bon,
ouais.
C'est ta voiture.
Merci.
À bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir. Là, on est sur la route qui va de Briançon à Montgenèvre, c'est ça ?
Ouais, ben en fait, c'est la route qui rejoint Briançon, même à Oulx. Hein. Et là, c'est la vallée de la Clarée à gauche. Et au bout de la vallée de la Clarée, il y a le col de l'Échelle, qui est un autre point de passage un peu stratégique.
Et alors, vous, vous appelez comment ?
Ben moi, c'est Benoît. À l'office du tourisme, on trouve un petit dépliant. La station de Montgenèvre l'utilise pour faire un peu sa promo. Et Ça s'appelle Montgenèvre en terre de passage depuis l'Antiquité, et où ils expliquent justement comment les moines au Moyen-Âge, parce qu'il y avait un hospice au col, ils allaient à la rencontre des voyageurs qui arrivaient par l'Italie, et comment ils les guidaient dans la neige pour pouvoir aller les mettre à l'abri à l'hospice. Donc la tradition, entre guillemets, d'aider le voyageur qui arrive, elle est inscrite. Ouais.
Il y a une obélisque.
Voilà, qui est un peu aussi un point de repère pour les gens qui arrivent dans la neige depuis l'Italie. C'est aussi un point de repère.
Là, c'est le poste frontière.
Voilà. La frontière, elle est plus bas. On va passer à l'ancien poste de douane italien, juste à l'entrée de Clavière. Et en fait, la frontière, elle est là.
Elle est remontée des téléskis.
Là où les gendarmes se font plaisir en motoneige pour chasser les exilés qui arrivent. Parce qu'ils ils sont équipés de deux motoneiges là, depuis le début de l'hiver. Et de temps en temps, il y a des courses-poursuites sur les pistes de ski de fond.
Là, on est à 2 km de Clavière, c'est ça ?
Là, on arrive à Clavière, hein. C'est vraiment tout près de Montgenèvre.
Et Clavière, donc, c'est là où il y a un endroit qui a ouvert pour accueillir les migrants il y a assez peu de temps, en fait.
Bah, qui a ouvert, c'est beaucoup dire, mais en disant que des militants solidaires, je ne sais pas comment on peut dire, ont décidé d'ouvrir ce lieu parce que c'était indispensable ici avec la quantité de gens qui arrivent. Ah bah il y a les carabiniers qui sont là.
Non, c'est police municipale.
Ça. Ah oui. Ouf.
Policier local.
Et voilà, du coup, c'était intéressant d'avoir aussi ce lieu, un endroit où ils peuvent se mettre à l'abri.
Et puis s'organiser pour passer aussi, ouais, entre eux.
On arrive devant une petite église, tout en pierre, chez Jésus, église occupée. Ça, c'est l'église de Clavière.
Il y a des petits messages qui ont été écrits par des gens qui passent par ici. Arrête de nous balader, nous ne sommes pas de la marchandise. Liberté de mouvement pour tous. Ouais.
Ici, c'est un lieu occupé. Il y aura une squat.
Il est rentré, Mathieu, lui.
Toi, tu t'appelles comment ?
Michel. Donc, on est à Clavière, à 1 km de la frontière. Et le lieu qui est occupé, c'est le Sotto Chiesa, c'est-à-dire un genre de sous-sol de l'église qui sert de salle paroissiale. C'est occupé depuis le 22 mars par des gens qui apportaient de l'aide aux migrants avant le passage de la frontière. On savait qu'ils arrivaient par le bus de 20h. On les attendait, on leur donnait des chaussures, vestes, manger, boire, etc. Et c'est arrivé quelques fois dans l'hiver qu'il y ait des gens qui ne puissent pas marcher. Et donc, quelques fois, on a ouvert pour une nuit en attendant de trouver une solution le lendemain. Et le 22 mars, ben en fait, les gens sont restés, et voilà. Là, ils peuvent se poser, manger, rester une nuit pour se reposer s'ils ont envie, s'informer sur comment ça se passe, le passage de la frontière. Il n'y en a pas qu'on fait demi-tour encore, mais en fait, s'ils veulent, ils peuvent. Et s'ils se font refouler à la frontière, ils peuvent aussi revenir et repasser une journée et informer les copains aussi. Donc en fait, c'est de l'auto-organisation.
Bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez comment ?
Joséphine. Même si cette frontière-là, il y aurait de la police en permanence, c'est comme à Calais, les gens, en fait, ils n'ont pas le choix. Et du coup, quand vous n'avez pas le choix, ben, qu'il y ait des associations qui vous donnent des conseils ou qu'il y ait juste des gens qui vous filent des gants, et ben, ça ne change rien, en fait, que s'il n'y en a pas, vous traversez quand même. À Calais, ils enlèvent même... l'État va jusqu'à enlever les réserves d'eau, quoi, mais... En fait, le mec, il va boire dans la mer, il s'en fout, quoi. il traversera inconditionnellement. La question ne se pose pas. Enfin, maintenant, c'est aussi lié à la manière dont l'État gère ses soi-disant flux migratoires. D'ailleurs, les flux, c'est strictement rien, ça ne veut rien dire. La métaphore de l'eau qui est utilisée en permanence par les médias, c'est juste pour faire flipper une vague de migrants, un flux migratoire. Parce que quoi, c'est comme un tsunami qui t'arrive en plein visage et c'est absolument incontrôlable. La réalité, c'est pas ça. Le nombre de migrants qui est en France, ça remplit le Stade de France aujourd'hui. Johnny le faisait aussi, hein. Et en fait, si l'État gérait ça correctement et que les personnes n'étaient pas obligées d'être dans des grandes villes pour être proches de préfectures, si c'était organisé correctement, on ne se rendrait même pas compte qu'il y ait des demandeurs d'asile. Et donc, il n'y aurait pas toute cette polémique et donc, il n'y aurait pas forcément de montée de l'extrême droite non plus. Sauf qu'en fait, c'est un choix que l'État y fait quand il s'occupe, soi-disant, comme ça des gens. Ce n'est pas autre chose qu'un choix. C'est pas autre chose.
C'est pareil quand Gérard Collomb dit il y a des régions qui sont submergées. Ici, c'est dans la région du Briançonnais, c'est 3000 personnes qui sont passées.
En 2017, il y a à peu près 3000 personnes qui sont passées donc par le refuge solidaire. 3000 pour même s'ils restaient dans les Hautes-Alpes pour un département de 150 000 habitants, c'est rien du tout. À la fin de la guerre d'Espagne, 500 000 personnes en 15 jours, quoi. Donc 3000 personnes, c'est...
Et là, en ce moment, il y a combien de personnes qui sont accueillies ? Chez Jésus, ça c'est le nom du squat, chez Jésus.
Là on est dans une église, du coup on est au moins chez Jésus là.
Je sais pas si on peut dire qu'on accueille, il y a des personnes qui passent. Et ben, évidemment c'est tout en mouvement.
C'est un lieu de passage plus que d'accueil.
Ouais.
On est face à des gens en hypothermie, des gens qui ont passé une nuit dans la neige parce qu'ils ont croisé des gendarmes ou ils ont croisé des motoneiges qui leur ont fait peur et ils sont allés se cacher dans la forêt et qu'ils n'osent plus sortir et qu'ils ressortent que le lendemain. Enfin, on ne peut pas se permettre de réfléchir, quoi. Le truc, c'est que les gens, ils ont besoin d'être échauffés, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de dormir, ils ont besoin qu'il y ait des gens qui s'occupent un peu d'eux. Donc oui, ça a été beaucoup ça. Au début, aller les mettre à l'abri le plus rapidement possible. Mais en même temps, nous, on prenait des risques quand même.
Par rapport à la police ?
Oui, bah évidemment, par rapport à la police, c'était le gros risque. Et comme les arrivées n'ont pas faibli pendant l'hiver, au contraire, ça a même très rapidement, ça a de nouveau augmenté. On s'est retrouvé face à des quantités de personnes impressionnantes. Et donc là, on prenait vraiment des gros risques.
Des fois, on a un peu peur quand même.
Peur de quoi ?
Bah peur de... Bah c'est... De toute façon, on cherche à nous intimider, hein. On criminalise des gens, on nous reproche ce fameux délit de solidarité, on nous dit qu'on a transporté des personnes en situation irrégulière, qu'on les a aidées, qu'on a favorisé du coup le maintien de ces personnes en situation irrégulière sur le territoire français. Et en fait, c'est un délit qui à l'origine avait été créé pour lutter contre les gens qui font du trafic d'êtres humains autour de la migration. Le but, c'était de démanteler les réseaux de passeurs. Et en fait, aujourd'hui, on s'en sert contre des gens qui prennent leurs responsabilités, qui font preuve de solidarité. Et tout ça pour criminaliser ces actions-là, qui sont juste des actions, je sais pas comment dire, c'est juste humain, quoi. Enfin, quand on a quelqu'un en difficulté près de soi, on va l'aider.
Ça, c'est quelque chose, toi, qui te concerne directement, t'as été convoqué.
Chose qui concerne à peu près 50 personnes à Briançon. Donc pour l'instant, il n'y a aucune poursuite. C'est dans les mains du procureur et tant qu'on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Quand j'ai été auditionné à la PAF, j'ai insisté sur le côté humanitaire de mon intervention. Et donc après, les échos que les avocats ont eus et que l'AFP a eus, c'est que je pourrais bénéficier de cette immunité humanitaire. Dont Cédric Héroux avait bénéficié, je crois... pendant un certain temps, parce que c'est pas comme l'immunité parlementaire, hein, c'est pas valable à vie, il y a une durée limitée dans le temps, mais bon, pour l'instant pas de nouvelles, mais j'ai un peu peur qu'ils aillent pas jusque là, parce que si moi j'en bénéficie, et il y en a plein qui pourront en bénéficier aussi, donc c'est peut-être pas une bonne stratégie pour eux.
Nous agissons par une défaillance d'État.
Cédric Héroux.
Moi j'invite ce beau parquet à venir dans la vallée de la Roya, et venir en montagne voir les petits noirs se faire forcer par la police. Aller parler aux familles des 15 morts qui sont morts sur la frontière franco-italienne. Moi, j'ai envie de dire à ces chers messieurs, chères dames qui sont censés représenter la justice que je ne m'arrêterai pas, que je continuerai mes actions parce qu'il faut le faire. Moi, je voudrais que Macron se réagisse un peu là.
Moi, j'appelle à M. Macron de réagir à ce qui se passe en ce moment, parce que c'est grave, quoi. Mmh. Où c'est qu'il veut nous mener, quoi? Où il veut mener la France? À quoi ça sert toutes les luttes qu'il y a eu des dernières décennies? À quoi ça sert les droits de l'homme? À quoi ça sert les droits de l'enfant? À quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que représente la France maintenant? Quelle image on a envie de donner de la France?
Le 10 mars,
c'était une maraude ordinaire, comme on en avait fait régulièrement depuis le début de l'hiver. Et au cours de cette maraude, on a trouvé une famille de 4 personnes, dont une femme enceinte de 8 mois et demi avec 2 petits-enfants. Et donc au moment où on les a trouvés, ils venaient de terminer leur parcours dans la neige, puisqu'ils font toute une partie du chemin dans la neige pour éviter la police. Et la maman, elle s'était fait porter. Ça faisait une heure qu'elle était portée, parce qu'elle était trop fatiguée, elle ne pouvait plus avancer. Moi, j'ai décidé de les emmener le plus rapidement possible à l'hôpital, parce que je me suis dit, cette dame, elle est sur le point d'accoucher, quoi. Malheureusement, on a été arrêté par la douane à l'entrée de Briançon, et on est passé à 2 doigts de la catastrophe, hein, parce qu'on est resté plus d'une heure arrêté au Champ de Mars, alors qu'on était à 500 mètres de l'hôpital, et qu'il n'y a pas eu moyen de faire comprendre aux douaniers que... Il y avait une situation d'urgence vitale, que cette dame, elle souffrait. Moi, on m'a dit que j'avais aucune compétence pour juger de tout ça, que j'étais pas une femme, que je pouvais pas savoir ce qu'il en retournait. Alors que j'ai quand même une formation de secouriste. Tout s'est bien fini, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave à cause de l'intervention des douaniers, c'est sûr. D'autant plus que c'est quand même une personne qui a accouché par césarienne 2 heures après. Et donc un accouchement par césarienne, ça se fait pas ni dans la neige, ni à l'avant d'une voiture. Hein. C'est des accouchements très médicalisés et où la maman et l'enfant risquent leur vie. Hein. Donc, on devrait quand même pouvoir arriver à dialoguer. C'est très très curieux de voir qu'on est face à ces gens-là, mais qu'il n'y a pas moyen. Quoi. On n'a plus affaire à des hommes, hein. C'est juste des machines qui sont au service d'un système... Comment on peut à ce point perdre toute capacité de discernement et toute humanité juste parce que on en est réduit à appliquer des directives et des circulaires? C'est assez terrible. Ce que je trouve terrible, c'est justement de plus être en mesure de se dire est-ce que je peux faire autrement, quoi. Si j'étais à la place de ces gens-là, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? Nous, on sait que quand ils franchissent l'école en hiver et qu'il y a moins 15, ils risquent tous leur vie, hein, ça c'est sûr. Hein.
Quand on dit aux gendarmes pourquoi vous faites ça, ils nous répondent parce qu'on a des ordres. Facile.
Au palmarès de phrases trop crasses, laissez-moi vous parler de celle qui, à mon sens, n'a jamais de cesse de nous enfoncer dans l'impasse. Elle peut faire expulser, peut faire fermer les portes, elle est de la lâcheté la meilleure escorte. Et dans la charpente des meurtres, organisée, c'est la poutre. Aucun de nos temps destructifs actes industriels ne lui doit peu. Aucun de nos immassifs massacres n'aurait sans elle pu avoir lieu. Je vous présente la phrase infâme, la hagra discrète issue des bureaux, le rimel d'innocence. Sens ultime, le plus prostitué des propos.
C'est pas moi qui décide, moi je fais que mon boulot.
C'est pas moi qui décide, moi je fais que mon boulot. C'est pas moi qui décide, moi je fais que mon boulot. C'est pas moi qui décide, moi je fais que mon boulot. C'est pas moi qui décide, moi je fais que mon boulot.
Désobéir, c'est se couvrir d'honneur. C'est ce qu'a répondu un policier qui avait fait de faux papiers à des enfants juifs pour les sauver pendant l'occupation lorsqu'on lui a demandé d'expliquer son geste. Aujourd'hui aussi, les citoyens solidaires se couvrent d'honneur, mais les procès pleuvent. Le 31 mai, ce sera les 3 de Briançon qui comparaîtront devant le tribunal de Gap. Et le 30 mai, ce sera le tour de Martine Landry, elle aussi poursuivie pour délit de solidarité. Et on redescend maintenant de la montagne pour retourner dans la manif Pot-au-feu. Yves, Antoine, comment ça se passe pour vous?
Charlotte, ça va très bien. On est arrivé à Bastille, enfin on est dans une petite rue de Bastille. Alors il y a effectivement un petit cordon des forces de l'ordre qui sont là. Il y a beaucoup de militants qui sont venus pour cuisiner ce pot-au-feu ici à Paris et qui sont arrivés jusqu'à place de la Bastille. Le cortège n'est pas encore terminé, il y a encore beaucoup de chars qui arrivent, hein, parce que c'est aussi un gros carnaval avec différents chars. On a pu discuter avec François Ruffin tout à l'heure. Là on est avec les Pinsons Charlot qui sont arrivés aussi dans la manif et qui vont parler avec nous maintenant. Et on attend donc les concerts qui vont démarrer là d'ici une petite heure ici à la place de la Bastille. Il y aura une fête, hein, tout au long de cette fin d'après-midi.
Et pendant ce temps-là, on voit aussi beaucoup de slogans qui sont des pancartes qui ont été inventées. La chienlit, c'est lui. Oups! La corde a cassé, dit un personnage déguisé en Macron avec une tyrolienne. C'est une préférence sans doute au premier de cordée. Privatiser, c'est son projet. Vive la manif radicale non violente de masse. Blanc bloc, par opposition au black bloc. Et un dernier mot pour la route. Moins de CRS, plus de tendresse, moins de Jupiter, plus de Vénus. Et j'ai le plaisir de me tourner vers vous, Monique et Michel Pinson-Charlot, parce que vous, rappelons-le, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes des sociologues et vous êtes les premiers, ou parmi les premiers, à avoir travaillé un champ d'études qui était délaissé par les autres chercheurs, à savoir les riches, les puissants. Or, il semble, il semble que vous avez, pris les devants, quoi, puisque maintenant même François Hollande dit que Monsieur Macron est le président des super riches.
Ah oui, alors ça, on est tout à fait, pour une fois, tout à fait d'accord avec François Hollande. Il n'est pas le président des riches, Macron, mais le président des super riches. Et alors, ce qui est drôle pour Michel et moi, c'est qu'on a écrit en 2010 un livre sur Nicolas Sarkozy, le président des riches, mais on se rend compte aujourd'hui que pauvre Nicolas Sarkozy, c'était finalement pas si grave que ça par rapport à ce que fait Macron. Macron, c'est bien pire, dans des proportions bien plus graves. Et puis Macron, c'est le pilonnage depuis un an sur tous les plans. Alors moi, je vais juste développer très rapidement les cadeaux faits aux plus riches. Et puis Michel, en contre-feu, montrera toutes les crasses qu'il a fait aux plus pauvres. Alors pour les plus riches, ben vous le savez, c'est la suppression de l'ISF. Ensuite, c'est la diminution de la fiscalité du capital de 60 à 30%.
Ce qu'on appelle la flat tax.
Flat tax. Ensuite, bien d'autres choses. Moi, j'ai envie de dire que c'est Emmanuel Macron qui, lorsqu'il était sous la commande de Hollande, a créé le CICE et le plan de responsabilité, qu'il a pérennisé dès qu'il est arrivé à l'Élysée. C'est des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises et aux plus riches sans aucune condition, sans aucun contrôle. Ça, il faut vraiment que les auditeurs comprennent ça, que les cadeaux en milliards d'euros sont faits sans suivi et sans contrôle. Et je terminerai par le truc le plus cynique, c'est le 1er mai qu'il a choisi pour annoncer qu'il supprimait l'exit tax depuis Forbes, les États-Unis en anglais, c'est-à-dire qu'il supprime la taxe que précisément le président des riches précédent, Nicolas Sarkozy, avait créée pour quand même essayer de freiner un petit peu l'exil fiscal des plus riches. Il a fait sauter ça en tout cynisme le 1er mai, le jour de la fête du travail.
Ça, c'est pour les avantages que vous décrivez pour votre sujet d'étude principal, c'est-à-dire les plus puissants. Alors, vous, Michel Pinson, sur les mesures qui viennent au contraire ou qui ne viennent pas encore venir en aide aux plus modestes, puisque normalement, c'est en même temps.
Ah, je crois que Macron a bien montré que sa solidarité allait vers pas les plus modestes, mais les plus fortunés. C'est pas étonnant, une formation et un passage par la banque Rothschild, ça laisse des traces. Et ce qu'il nous a semblé, c'est que aujourd'hui, il y avait une unité qui se constituait sans avoir été fabriquée, quoi, par du travail préalable pour cette manifestation. Il y a beaucoup de personnes âgées, il y a beaucoup de jeunes. Et il y a une solidarité des générations et il y a aussi un souci des plus âgés de ne pas laisser les malaises, les catastrophes géographiques et pour les conditions climatiques d'arrêter ça parce qu'ils craignent pour ce qu'auront à vivre leurs enfants. Il y a un manifestant tout à l'heure qui était bien âgé, mais qui disait « Moi, je suis venu parce que je pense à l'avenir. Et l'avenir avec Macron, c'est la catastrophe. Il faut absolument arrêter ça. »
Monique.
Alors donc par rapport à l'autre catastrophe de Macron, donc c'est contre la classe ouvrière, contre les travailleurs qui ne sont plus que des coûts, des charges. Ils sont traités de fainéants, qui foutent le bordel, de cyniques, d'extrêmes. Eh bien là, on vous dit en direct, Michel et moi, nous ne céderons rien aux fainéants, aux cyniques et aux extrêmes de l'oligarchie prédatrice.
Merci.
Alors on est place de la Bastille, hein, le cortège, la fin du cortège arrive de cette manif pot-au-feu et on va écouter, il y a la fanfare invisible qui était là. On a ouvert cette manifestation pot-au-feu avec donc l'orchestre debout qui avait joué le fameux morceau de Nougaro Paris 5 mai et maintenant c'est la musique qui continue ici et qui va durer toute la nuit.
Voilà, exactement.
Vous êtes là?
Là, je vous vois, vous avez un joli masque. C'est un loup, c'est ça, on appelle ça?
Oui, c'est pour Madame la Marquise.
Vous êtes toute maquillée, vous avez une petite mouche sur maquillage.
Exactement,
et dites-moi,
avec
alors,
le costume.
Ah oui, c'est vrai. Alors, expliquez-moi quel rôle vous incarnez.
Bah, Madame la Marquise, en dédicace de Kenny Arcana et en dédicace de Monsieur Macron. Donc, si vous voulez savoir, vous écoutez Kenny Arcana, Madame la Marquise. Tout sera très bien expliqué.
Madame la marquise, vit dans sa bulle à sa guise. Prison dorée, apatrée, aveuglée car sa bride dit que la terre s'assalit. Tient plus à son masque, à sa vie, la même de New York à Paris. Ne ressent rien, analyse, cultive l'avarice. Et que le monde court à sa ruine, Madame la marquise n'en a que penser. Bien trop concentrée sur elle-même, trop occupée à exposer sa vie et à penser à ce qu'on penserait d'elle. Madame la marquise, c'est la vie en rose, tant que son miroir lui dit qu'elle est belle. Donc peu lui importe les autres, l'époque, le monde peut crever autour d'elle. Madame la marquise, le château bruit, je sais c'est fou. Pour une fois je vous en prie, réveillez-vous. Les flammes ont déjà attaqué les foules. Regardez autour, Madame la marquise, le château brûle, l'air est rempli de soufre. Reste-t-il encore des issues de secours? Réagissez avant que tout s'écroule. Le temps est compté, Madame la marquise.
Bonjour. Alors vous êtes donné du mal, je dois dire.
Oui, beaucoup mal, oui. Jusqu'à 1h hier matin, oui.
Parce que vous avez une pancarte, mais en fait c'est une silhouette.
C'est ça, une silhouette de Macron représentée en alpiniste.
Genre tyrolien, vu qu'il
se décrit lui-même comme un premier de cordée. Mais visiblement la corde elle a cassé parce que c'est le seul à monter et nous on est tous tombés. Voilà.
Et le slogan dit « Oups, la corde a cassé » et on voit Macron qui est... C'est une pancarte animée, vous lui faites secouer le bras.
C'est ça.
Avec la fameuse corde.
Oui.
Parce que vous ne vous sentez pas parmi les premiers de cordée, vous projetez pas dans les winners?
Non, c'est sûr, on ne se projette pas dans les winners parce que nous, la suppression de l'exit tax, par exemple, ça ne nous touche pas. Voilà, par exemple.
Qu'est-ce qui vous touche?
Ah bah nous, ce qui nous toucherait, par exemple, ce serait de ne pas privatiser les services publics, déjà, dans un premier temps, parce que c'est un bien commun. Par exemple, pour en revenir à l'actualité de la SNCF, on sait très bien que revenir sur les statuts de la SNCF, ça fera monter les billets de train. Donc ça, nous, ça nous toucherait d'avoir des billets de train moins chers plutôt que le prix augmente. Voilà.
La fanfare invisible. du mouvement social, convergence des luttes. Ouais, c'est pas complètement ringard la convergence des luttes encore, et c'est en train de se jouer ici dans ce cortège à l'arrivée à Bastille. Tout s'est bien passé, beaucoup de monde qui sont venus d'un peu partout, de tous les secteurs en lutte, mais même les secteurs pas en lutte, mais qui sont solidaires de ceux qui rament. Alors on est ici, ça va bientôt se terminer, enfin l'émission, comme un bruit qui court, la fête va continuer ici sur la place de la Bastille. On est avec la fanfare invisible, avec son morceau du mouvement social qu'on aime bien et qu'on entend dans toutes les mobilisations quasiment, on les a vus dernièrement. Et on vous laisse, à toi Charlotte.
C'était comme un bruit qui court, on se retrouve samedi prochain à 16h, il y a encore temps de rejoindre la fête à Macron.